Le journal Loïc Barrière. Des incidents dans le Kurdistan iranien, 40 jours après le décès de la jeune femme qui avait été arrêtée par la police des mœurs. La police s'est tirée sur des manifestants. Elle veut redonner de la fierté aux militants écologistes. L'élue régionale Sophie Bussière souhaite prendre la tête d'Europe Écologie Les Verts pour faire de ce mouvement un parti de gouvernement. Elle sera l'invitée de Pluriel, extrait dans ce journal. Le décès du peintre français Pierre Soulages, l'artiste qui a marqué l'histoire de l'art, était âgé de 102 ans. Enfin, entretien avec le diplomate algérien Abdelrahman Ben Mokhtar. Il publie ses souvenirs d'enfance, Odyssée d'un enfant d'Orléansville. En Iran, les forces de sécurité ont ouvert le feu et tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants rassemblés à Saguez, la ville où est enterrée Mahsa Amini dans le Kurdistan iranien. Ces incidents ont eu lieu le jour où était organisée une cérémonie d'hommage marquant la fin du deuil de 40 jours. La jeune femme est décédée après avoir été arrêtée par la police des mœurs. Malgré la présence massive des forces de sécurité à Saguez, des dizaines d'habitants ont pu se rendre sur sa tombe pour lui rendre hommage. Sa mort a suscité d'importantes manifestations contre le pouvoir à travers le pays. Selon l'ONG Iran Human Rights, la répression des manifestants a fait au moins 141 morts, dont plusieurs enfants. L'invité de Pluriel à 19h23 est Sophie Bussière, conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine. Elle souhaite prendre la tête d'Europe Écologie Les Verts à l'occasion du congrès prévu à la fin de l'année. Quelles sont ses ambitions pour les écologistes? Extrait de cette émission.
Il y a beaucoup de chantiers à mener puisque notre mouvement, vous l'avez peut-être noté, est en difficulté, je dirais comme tous les partis politiques actuellement, mais dans la séquence actuelle où les effets du bouleversement climatique se font ressentir concrètement, sont visibles, il n'est pas normal que notre parti soit aussi inaudible. Donc nous commencerons par redonner de la fierté à nos militantes et militants qui ont vécu une année encore plus difficile que d'habitude. Un soutien également à nos élus, les élus à tous les échelons, qui sont attaqués en ce moment de toutes parts, l'extrême droite bien entendu, mais aussi d'autres partis qui stigmatisent nos élus et les propositions écologiques qui souvent caricaturent nos propositions. Donc un soutien à l'ensemble de nos élus. Nous devons aussi structurer davantage notre parti pour le rendre audible, je le disais, mais également plus crédible. Nous devons bien sûr développer nos propositions en matière environnementale, mais pas uniquement. Il faut aller travailler sur le fond, sur des sujets que l'on appelle régaliens, notamment la sécurité, tous les sujets, nous devons nous en emparer pour faire de notre mouvement un parti de gouvernement. Et il faut aussi que l'on apprenne à s'adresser à tout le monde. On a une difficulté, on a souvent des propositions qui sont entendues dans les centres urbains, dans les grandes villes, mais nous ne parlons pas, absolument pas, à tout le reste de la France, donc les périphéries, les quartiers populaires, le monde rural. Et donc là, nous avons vraiment quelque chose à changer dans notre façon de nous exprimer, écouter davantage les personnes, échanger et faire que nos propositions soient plus, peut-être, communiquées de façon plus simple et concrète. Et c'est d'ailleurs terrible puisque le programme écologique apporte des solutions au quotidien, aux problématiques quotidiennes des Françaises et Français, par exemple sur le plan de la santé, l'alimentation, le logement. Et ça, nous ne savons pas à l'heure actuelle l'expliquer clairement et simplement. Et donc ça, c'est un travail que nous allons mener avec l'équipe du Printemps Écolo.
C'est simplement un problème de communication en direction des Français ou bien c'est parfois la tentation de certains écologistes d'avoir des positions trop radicales qui peuvent heurter une partie des Français?
Je pense qu'il y a les deux en fait. Il faut vraiment faire un travail sur la communication, mais il y a aussi peut-être un problème de fond aussi à résoudre. Là, vous évoquez certaines petites phrases, des choses comme ça a toujours existé. Et en fait, je trouve qu'il ne faut pas, voilà, notre mouvement Printemps Écolo trouve qu'il ne faut pas cliver parce que les questions écologiques sont des questions quand même assez complexes, assez transversales. Et lorsqu'on clive, lorsque l'on fait des polémiques, sciemment ou pas, ça ne permet pas d'expliquer, de faire de la pédagogie, d'emporter la conviction. Et clairement, ce ne sont pas les écologistes uniquement qui disent qu'il faut changer radicalement nos politiques. C'est un fait scientifique. Il y a le bouleversement climatique, il y a la chute de la biodiversité. Ça, ce sont des constats scientifiques que nous avons toujours relayés, pris avec sérieux. Et il faut maintenant changer complètement au niveau politique, à tous les niveaux. Et pour le faire, ce ne sont pas uniquement les écologistes qui pourront le faire. Il faut vraiment emporter la conviction de tout le monde et faire avec des partenaires, que ce soit partenaires politiques, mais pas uniquement. C'est-à-dire que les syndicats doivent être intégrés dans la transition écologique, tous les corps de métier, etc. Et ça, actuellement, la majorité présidentielle, on l'a vu hein, dans le quinquennat précédent et là actuellement aussi, ne s'appuie absolument pas toutes sur ses forces vives. Et nous devons entraîner tout le monde parce que, imaginez bien, le chantier de la transition écologique, on pourrait même dire l'atténuation maintenant sur les conséquences du bouleversement climatique, est très important. Donc il faut le faire avec tout le monde.
Sophie Bussière, conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine, elle est l'invitée de Pluriel à 19h et 23h. Face à l'explosion des factures d'électricité, Elisabeth Borne précisera cette semaine les nouvelles aides aux entreprises et aux collectivités locales. Selon le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ces dispositifs sont actuellement en cours de discussion avec la Commission européenne. Lors de deux opérations de sauvetage, 73 migrants ont été secourus par l'Ocean Viking en Méditerranée, ce qui porte à 146 le nombre de rescapés à bord du navire affrété par SOS Méditerranée. Ce sauvetage intervient alors que la nouvelle première ministre italienne Giorgia Meloni s'est engagée à bloquer les arrivées de migrants en provenance d'Afrique. Son nouveau ministre de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, a déclaré qu'il pourrait empêcher les navires des ONG de se rendre en Italie. Le procès de la catastrophe de Brétigny-sur-Orge, la SNCF a été condamnée à 300 000 euros d'amende. Le tribunal d'Evry a en revanche relaxé SNCF Réseau et un ancien cheminot. Le déraillement d'un train dans la gare de cette ville de l'Essonne avait fait 7 morts et des centaines de blessés il y a 9 ans. Le peintre Pierre Soulages est mort à l'âge de 102 ans. C'était l'un des artistes contemporains français les plus connus à l'étranger. Ses toiles étaient aisément reconnaissables en raison de son emploi de la couleur noire, qu'il avait baptisé Outre Noir. Le Louvre avait exposé ses œuvres à l'occasion de son 100e anniversaire. Le diplomate algérien Abdelrahman Ben Mokhtar, deux fois ambassadeur, publie ses souvenirs d'enfance, Odyssée d'un enfant d'Orléansville, un récit qui nous entraîne dans l'Algérie d'avant l'indépendance, un livre où il évoque sa mère, mais aussi l'école pour les indigènes, ainsi que le tremblement de terre de 1954. On écoute Abdelrahman Ben Mokhtar.
Je suis né en 1949. À Orléansville, qui se trouve à 200 km à l'ouest d'Alger. Il fut un temps où elle s'appelait Castelnau-Tinchitainon, puis Orléansville au temps de la colonisation, et la CNAM au lendemain de l'indépendance. Depuis 1980, il y a eu un tremblement de terre et les gens, par superstition, ont collé ça sur le dos de l'Ouetchélif qui traverse la ville. Et donc, de ce jour-là, il l'appelle Chélif, Chélef, à la place de El Asnam. Voilà.
Alors, dans ce livre, vous dites avoir voulu faire revivre et revisiter un passé, tout en partageant avec émotion le souvenir de paysages, d'événements et de personnes disparues ou pas. Vous avez voulu transmettre vos souvenirs aux jeunes générations?
Absolument, absolument. C'est le et principaux objectifs. C'était déjà de ne pas laisser tomber dans le néant tous ces souvenirs épars. Et oui, j'aimerais bien que les jeunes générations se mettent un petit peu dans la tête qu'ils sont en train de vivre tout à fait une autre époque. Et celle à laquelle je me réfère, partie de mon enfance, c'était tout à fait un autre univers, et serait bien que les jeunes générations, non pas s'en inspirent, mais se satisfassent de ce qu'ils ont actuellement. Quant à moi, il s'agit essentiellement d'un témoignage, de ne pas laisser les choses tomber dans le néant, et puis de fixer pour mes proches, pour mes amis, pour ma génération et même les générations qui sont venues bien après, un petit peu cette époque-là où le téléphone portable n'existait pas, tous les instruments modernes n'existaient pas, y compris le chauffage, l'électricité était parcimonieusement attribuée. Et donc, je parle d'un autre univers, mais qui a son importance pour les Algériens et pour les Français aussi.
Est-ce que vous pouvez nous parler des Aouches, ces maisons que vous avez bien connues enfant à Orléansville?
Oui, ben, cela remonte déjà très très longtemps. Hein. J'ai 73 ans. J'avais à l'époque du tremblement de terre de 54, je devais avoir 5 ans. Les Aouches, ce sont des maisons à terre, des maisons où les propriétaires pouvaient louer à plusieurs familles en même temps. Donc chaque famille disposait d'une chambre, probablement d'une grande chambre, hein, si mes souvenirs sont bons. Et bon, inutile de parler de cuisine, salle de bain, hein, c'est pas la peine d'en parler. Par contre, au milieu de la cour, je trouve toujours une coucha. J'en parle. C'est un four en terre cuite et paille mélangée, hein, où on cuisait le pain, mais de manière non pas épisodique, mais c'est tous les jours. Hein. On n'entendait jamais parler de boulanger qui vend du pain. Le pain se faisait à la maison. Les Aouches, c'était la vie commune. Hein. Beaucoup de familles se regroupaient, chacun à sa place.
Vous avez perdu votre père très jeune. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'a fait votre mère, puisque vous parlez d'elle à de nombreuses reprises?
Ah, j'aurais dû en parler à beaucoup plus de reprises, hein, parce que elle a fait partie de manière gigantesque de ma vie. C'est elle qui m'a élevé. Moi, j'avais 1 an et demi quand il est décédé. Et puis, c'est elle qui s'est occupée de tout jusqu'à ce que je quitte la maison familiale pour aller étudier à Alger. Mais je lui donne en somme ma vie telle qu'elle s'est déroulée à l'adolescence, à l'enfance et même à l'âge adulte. Hein. Et je n'avais pas été elle qui m'avait guidé, orienté, aidé, soutenu, appuyé de toutes les manières possibles. Jamais, jamais je n'aurais fait la carrière que j'ai faite, et puis voilà, non. C'est un totem. En somme, un petit message aussi pour les jeunes, hein, qui, vous savez, les structures familiales sont un peu éclatées partout dans le monde. C'est pour fixer un peu la place de la maman, de la mère poule, de la mère tout court, qui, quelles que soient les circonstances, s'occupe de ses enfants, quelles que soient les circonstances.
Vous évoquez aussi l'école des indigènes. Comment étudier les petits Algériens avant l'indépendance de l'Algérie? Ça n'était pas la même école que pour les Français.
Alors là, bien sûr, c'est un pan caché de tout ce qui s'est passé durant ce temps. Effectivement, j'ai été dans ce qu'on appelle une école indigène, une école d'une commune qu'ils appelaient à l'époque commune mixte. Normalement, elle était ouverte à tout le monde, mais il n'y avait que, à l'époque, des Arabes musulmans. Donc, toute ma scolarité au niveau du primaire, je l'ai faite avec mes co-religionnaires, arabes, quoi, algériens. C'est quand même très difficile d'avoir une vie familiale, avec toutes nos traditions et tout, et puis de se retrouver à l'école où on devait apprendre que nos ancêtres étaient des Gaulois, qu'on chantait la Marseillaise pratiquement chaque début de semaine ou chaque jour, je ne me rappelle plus exactement. C'était difficile à vivre parce qu'on n'avait pas conscience de ce qui se passait. On vivait au jour le jour. Le maître était français, c'est sûr. Mais ce qu'on cherchait à nous apprendre, c'était difficile à ingurgiter. Voilà. J'ai fait toute ma scolarité primaire et secondaire à Orléansville, chez l'EF et la SNAM, si vous voulez. Et puis en 1969, j'ai passé le concours de l'ENA. Je n'ai pas eu une seule seconde pour respirer. C'est directement le baccalauréat, inscription au concours réussi, l'accès réussi, 4 années d'études au niveau donc universitaire pratiquement, mais c'était l'ENA, c'est un établissement public. Et puis le service national, et puis la carrière diplomatique que j'ai eue, et qui a été couronnée à 2 reprises par des postes d'ambassadeur, mais après avoir été directeur plusieurs fois au ministère.
Alors, difficile de penser à votre livre sans évoquer le tremblement de terre de 1954. Beaucoup se souviennent de celui de 1980. On évoque plus rarement celui de 1954.
Et pourtant, l'histoire, entre guillemets, moderne d'Orléansville ou El Asnaam, c'était le tremblement de terre de 54. C'est lui qui a fixé la mémoire des gens. Maintenant, on parle de 80, mais les gens en 80, ils se rappelaient celui de 54. C'est une question de génération. Et puis, en 80, il y avait tous les instruments de communication possibles et imaginables. Mais en 54, il n'y avait rien. On savait ce qui s'était passé dans le quartier. Les maisons effondrées, les gens qui se retrouvaient dehors sous des tentes militaires, puis dans des baraquements en bois. En 80, quand même, il y avait des hôtels, des immeubles, et puis il y avait la communication. Moi, à l'époque, je me trouvais en 80, je me trouvais déjà à Belgrade, en Yougoslavie, où j'étais attaché à l'ambassade.
Abderrahman Ben Mokhtar, son récit est intitulé « Odyssée d'un enfant d'Orléansville ». Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.